Got gun. Hulk left, Trot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Bieber left, 75, Katie.
Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead, goal line. Touchdown.
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 Hello, hello. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 377 du podcast Jean Lactuel. On était très heureux de vous retrouver pour la preview de la 10e semaine de la saison 2020 en NFL. Oui, déjà 10 semaines. À mes côtés pour parler de tout ça, il y a Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Salut Alain et bonjour à tous.
10e semaine de NFL, on l'a dit Grégory, on arrive à la mi-saison. C'est l'heure donc de remettre les trophées de mi-saison. On va parler MVP, joueur offensif, coach, joueur défensif, rookie, comeback de l'année, tout ça. On se tournera ensuite vers une rivalité de division avec l'affiche entre les Rams et les Seahawks. C'est l'affiche de la semaine. Ensuite, on reviendra évidemment sur les pronostics à venir de la semaine et puis vos questions. C'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Déjà 9 semaines de NFL en boîte, je ne sais plus combien ça fait de matchs, je sais pas, on va faire une 150aine de matchs, on va même plus, 200 matchs, quelque chose comme ça.
Oui, il me semble qu'on a passé la moitié des matchs de la saison le week-end passé. Ouais.
C'est ça, on les a passés, mais du coup, comme je suis pas très bon en maths, tu vois, faire deux têtes, 9 Oula. Semaines fois 16 matchs, moins les bye-weeks.
Je suis un littéraire également, Alain, tu devrais le savoir.
Ouais, là, du coup, ouais, on doit être un peu en dessous des 150 matchs, quelque chose comme ça. Bon, bref. Les trophées de mi-saison, donc, Grégory, il est l'heure de les remettre. Le but, c'est vraiment de couronner alors, c'est pas de projeter le MVP, hein, c'est de dire qui est le MVP si on s'arrête à l'instant T, on est d'accord.
Mmh. Oui, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas.
Très bien, non, ça permet de clarifier pour nos auditeurs également. On va commencer évidemment avec le trophée roi de la catégorie, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de suspense, à moins que tu me fasses mentir hein, sur le MVP de la saison régulière après 9 semaines. Ça semble quand même être Russell Wilson.
Il y a un débat dans le débat. Alors, je t'avoue que je me suis vraiment gratté la tête parce que la saison de Russell Wilson depuis le début, voilà, c'est vraiment stratosphérique. Il n'y a rien à dire. Il porte vraiment Seattle à bout de bras depuis le début de la saison. C'est difficile de remettre ça en question. Maintenant, c'est un peu la même interrogation que t'as par rapport à Drew Brees pendant que Peyton Manning jouait, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, Russell Wilson, il est énorme. Mais si tu regardes les stats d'un Patrick Mahomes, par exemple, si tu regardes, il fait combien? 25 TD, une interception depuis le début de la saison. Alors, c'est une seule interception. Il me semble que c'était contre les Raiders, hein, le seul match que les Chiefs ont perdu. Mais c'est quand même un match où ils mettent 30 points à ce moment-là. Donc certes, l'un a l'avantage d'être mieux entouré que l'autre, mais à mon sens, en tout cas, au moins d'un point de vue coaching. Mais c'est ça qui m'a fait un petit peu hésiter entre MVP, joueur offensif, tout ça.
Alors voilà, moi c'est ce que j'allais te dire. Les deux catégories sont liées de toute façon la plupart du temps. Alors, du coup, on a un peu les mêmes réflexions. C'est-à-dire que moi, je renvoie ça au sempiternel débat. Est-ce que le MVP, c'est le meilleur joueur de la Ligue? Et du coup, je te dirais, Russell Wilson est le MVP au sens où il est le plus valuable, donc qui apporte le plus à son équipe, si on prend la définition. Et c'est pour ça, et du coup, je peux le dire tout de suite, moi, j'avais Mahomes en joueur offensif de l'année, en fait. Parce
ouais,
que
c'est...
il est l'arme ultime de la Ligue, meilleur quarterback de la Ligue, ça c'est sûr. Mais je me dis que les Chiefs seraient meilleurs sans Mahomes que les Seahawks sans Wilson. Parce que
parce que
tout ce qu'il y a autour, parce que la défense, parce que...
Honnêtement, ça s'entend. C'est une réflexion. Je pense qu'on peut prendre ça dans les deux sens. Après, moi, je t'avoue, c'est vrai que si je prends les 8 matchs depuis le début de la saison, alors certes, en effet, Wilson a besoin aussi de prendre plus de risques que Mahomes parce qu'il est vraiment encore plus dépositaire du jeu que son homologue des Chiefs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au dernier nouvel, il est toujours sur les traces potentiellement de battre le record de Peyton Manning, hein, parce que c'est 28 touchdowns en 8 matchs. sachant que le record de Manning est à 55, si je me trompe pas, en 2013. Donc c'est forcément voilà, mettre Wilson MVP, c'est tout sauf farfelu. Après, encore une fois, moi, ce qui m'embête, c'est que si je regarde, si je prends l'ensemble des matchs, malgré en effet les responsabilités des uns et des autres, il y a un demi-match où Mahomes passe à travers. C'est ce que je disais, c'est celui contre Las Vegas. Le début de match notamment, et il y a deux matchs qui jouent contre Wilson. C'est celui à Buffalo où il fait deux interceptions de fumble, et c'est celui à Arizona où il fait trois interceptions, dont l'interception d'Isaiah Simmons, pardon, je vais y arriver, qui est fatale aux Seahawks. Alors après, voilà, c'est pas dire que sa saison est mauvaise, mais c'est sûr qu'après tu compares, et moi je suis plus allé vers un Mahomes MVP qu'un Russell Wilson joueur offensif, mais encore une fois je comprendrais parfaitement la logique inverse.
Ah oui, donc t'inverse pour le, là si on doit voter, tu vois, que la NFL te dit t'as un vote, toi tu fais l'inverse de ce que j'ai fait, c'est-à-dire tu mets Mahomes MVP, Wilson joueur offensif.
Oui, oui, tout à fait,
ouais. D'accord. Ah ouais, ouais, mais tu vois, c'est pas, encore une fois, c'est pas ouais, parce que j'aurais tendance à penser que pur joueur offensif, Mahomes, c'est un meilleur joueur que Wilson.
Ben, oui, mais alors, moi ça rejoint... Alors, j'essaie d'être un minimum cohérent dans ce que je dis, parfois c'est difficile, mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais le mardi, avec notamment le play call un petit peu douteux de Kansas City. C'est que, encore une fois, oui, l'environnement autour de Mahomes, c'est beaucoup plus sain, je dirais, pour s'épanouir que celui autour de Russell Wilson. Sauf que, bah, même quand en l'occurrence, sur le week-end dernier, Kansas City, à mon sens, en tout cas, les appels de jeu sont pas bons. Mmh. Il y a un joueur qui est capable de cacher ça. Donc, mais je te dis, c'est compliqué. J'aurais très bien pu mettre Wilson MVP. Mmh. Mais encore une fois, il y a ces deux matchs, encore plus, je trouve, celui d'Arizona, qui m'embête un petit peu dans l'équation, mais c'est pas du tout remettre en cause le talent du joueur. Et voilà, c'est le syndrome Manning-Breeze, où l'un a pas eu d'MVP et l'autre en a eu 5, quoi, ce qui paraît un petit peu injuste en termes historiques.
Non, mais tu vois, encore une fois, moi je suis plus sur Mahomes valuable, encore je le répète, parce que justement les deux matchs qu'il joue contre lui, c'est des matchs où il fait des erreurs, et clairement, et ça montre à quel point il doit être à bloc en permanence, comme on l'a dit bien mardi, pour que Seattle gagne, et je trouve que c'est ce qui fait toute sa valeur. Et en fait, Mahomes, encore une fois, c'est pas contre lui, c'est un joueur exceptionnel, il est au-dessus. Mais on a déjà vu que les Chiefs et Andy Reid pouvaient faire marcher, tu vois, sans Mahomes, et qu'ils gagneraient des matchs. Est-ce que Kansas City, tu vois, est pas une équipe à 50% de victoire, par exemple, aujourd'hui sans Mahomes, avec un quarterback lambda type Alex Smith à l'époque où il était à Kansas City? Peut-être, alors que les Seahawks sans Wilson à l'heure actuelle, à mon avis, vu la défense qu'ils ont, s'ils ont un quarterback moyen,
de toute façon, c'est sûr. Mais c'est pas la première fois qu'on en parle. Je suis persuadé que de toute façon, John Schneider et Pete Carroll organisent leur équipe en sachant que de toute façon, Wilson va faire une telle partie du boulot qu'ils peuvent se permettre éventuellement de, avec des grosses guillemets, hein, négliger la ligne offensive, même si elle est moins pire. C'était pas dur que ces dernières années. Mais oui, non, c'est sûr. Encore une fois, la définition du joueur valuable, je l'entends dans ce que tu me dis. Hein. Je te dis franchement, dans ma réflexion, c'est du 51-49. Hein. C'est pas plus que ça.
Eh ben, c'est bien. Ça partagera les votes. Donc, Russell Wilson MVP de mon côté et Patrick Mahomes pour toi. Et on l'a dit, on va pas revenir du coup sur le joueur offensif. On inverse. Donc, Wilson est joueur offensif pour toi. Ce sera Patrick Mahomes de mon côté. Comme on a fait joueur offensif, on va faire joueur défensif. Tiens, est-ce que, alors là, c'est pareil. On est dans un truc où il y a le syndrome de l'ennui du votant, quoi. C'est-à-dire que, parce que dans les faits, tu peux voter pour tout le temps le même. Ouais. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est Aaron Donald.
Ah, bah écoute, alors je t'avoue, il y a deux noms qui se sont disputés, forcément des habitués un petit peu, c'est Aaron Donald et TJ Watt. TJ Watt qui est tenant du titre d'ailleurs, je vais pas me tromper, je sais plus qui l'était l'année dernière.
C'est possible, tu me mets un doute, mais je vais vérifier.
Je sais plus, vu le niveau des Steelers de l'année dernière, ça m'étonnerait pas que ce soit lui, mais j'ai un gros doute là-dessus. Moi, je t'avoue, franchement, là je vais le dire très clairement, c'est un choix du cœur, vas-y.
C'est Stephen Gilmore. On va se faire taper sur les doigts par les supporters des Patriots.
Oh, pardon. Bah, autant pour moi. Ça m'était totalement sorti de la tête. Pardon. Mais c'est justifié vu le niveau de la défense des Pats l'année dernière. Petit oubli, en l'occurrence. Je suis allé vers la défense des Steelers quand même. Parce que pour moi, même si les Rams prennent moins de points, ils ont à mon sens une adversité un peu moindre depuis le début de la saison. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller plus vers Pittsburgh, avec les succès notamment référence à Tennessee et Baltimore. Et je suis pas allé vers TJ Watt. J'ai préféré mettre une pièce sur Minka Fitzpatrick, qui malgré tout, déjà parce que je trouve qu'on met pas assez, alors j'allais dire, je trouve qu'on met pas assez les defensive backs, encore plus les safety, parce qu'en l'occurrence, c'était un corner qui était défenseur de l'année la saison passée. Mais voilà, c'est une position qui est pas assez mise en avant. Dans la ligue moderne, c'est quand même un poste qui prend de l'ampleur, hein. Il y a de plus en plus d'équipes avec des formations à trois safety, donc c'est vraiment un rôle qui est devenu prépondérant en NFL. Et on voit déjà que depuis son arrivée du côté de Pittsburgh, la défense des Steelers est transfigurée. Et on voit aussi que sur les dernières semaines, il y a des actions décisives, notamment à Baltimore et à Dallas, dans les dernières secondes. Donc voilà, sans remettre en cause là encore le rôle d'un Aaron Donald chez les Rams, ou encore plus celui d'un TJ Watt qui est extrêmement polyvalent dans cette défense de Pittsburgh, ça me paraissait important peut-être aussi de changer un petit peu l'équation et de partir sur un autre défenseur émérite, je trouve, de Pittsburgh, même si le danger peut venir de partout dans cette équipe.
Ok, non, bah, je suis original. Moi, j'avoue que j'hésitais avec TJ Watt pour le mien, parce qu'il est le symbole un peu de ce pass rush hyper conquérant de Pittsburgh cette année. Mais je te dis, moi, je retombe sur Aaron Donald parce que je veux pas tomber dans le ouais, mais il le prendrait à chaque fois. Donc, on va voter pour un autre. Il a 9 sacs cette année. C'est toujours depuis l'intérieur de la ligne. Donc, il est leader sur les sacs depuis l'intérieur de la ligne. Il peut éventuellement encore taper une saison à 20 sacs, ce qui est monumental sur son poste. Mm-hmm. Donc je suis obligé de partir sur
et la défense des Rams a largement progressé par rapport à l'année passée, donc ça s'entendrait aussi, ouais.
Et en plus, le coach de l'année, je te laisse commencer.
Bah écoute, j'ai choisi Brian Flores des Miami Dolphins. C'est assez homogène cette année. Il n'y a pas vraiment un coach, on va dire, qui surperforme plus qu'un autre avec le groupe qu'il a à sa disposition. Peut-être éventuellement un Kingsbury, mais de par l'intersaison d'Arizona, on pouvait quand même s'attendre à des résultats beaucoup plus positifs. Miami, je m'attendais clairement à une saison de nouveau de reconstruction. C'est pas du tout ce qui se passe. Il y a des automatismes qui se sont trouvés beaucoup plus vite. C'est très complet sur toutes les phases de jeu. Ça me paraissait difficile de ne pas mettre un Brian Flores en avant sur cette catégorie.
Eh ben écoute, tout pareil, tu as tout dit. Et moi, ce que j'aime bien avec Brian Flores, c'est que c'est un concept dingue, embaucher un coach défensif qui fait du bon boulot avec la défense. Incroyable. Je veux dire, les Lions et les Falcons, ils ne comprennent pas ce qui se passe du côté de Miami en ce moment. Ils sont quatrième sur les points encaissés. Et tu l'as dit, ça joue sérieux et c'est dans la course au playoff. Donc, c'est vraiment. Et en plus, il le mérite parce que c'est la confirmation de l'an dernier où on lui promettait l'enfer et ils avaient été sérieux pendant toute l'année. Ils avaient arraché quelques victoires. Donc, Brian Flores à l'unanimité. Le rookie offensif de l'année. Est-ce que c'est un duel Justin Herbert-Joe Burrow?
Ben, j'en ai bien peur, hein. Très franchement, là aussi, ça a été très très difficile de sortir un joueur du lot. Honnêtement, je suis très excité par ce que je vois de Justin Herbert, mais c'est un peu la même logique que pour Wilson. Je veux dire, quand on voit ce qu'arrive à faire Joe Burrow avec la ligne offensive qu'il a, bon, c'est bien aussi de le mettre en avant. Il justifie son premier choix de draft alors que beaucoup l'annonçaient comme un simple one-year wonder du côté de LSU. Et voilà, on voit que de par sa faculté à se déplacer dans la poche, de par sa capacité d'improvisation et de par sa précision, il arrive vraiment à faire un minimum surnager Cincinnati. Je l'ai dit, je suis pas du tout fan des choix de Zach Taylor depuis le début de la saison et je pense que sans un Joe Burrow, il serait dans le même état que la saison passée. Donc ça me paraissait logique de le mettre en rookie offensif de l'année 2020.
Sur les stats, ils ont tous les deux 5 interceptions, mais Burrow a 11 touchdowns alors que Justin Herbert en a 17. C'est vrai que c'est tentant, enfin les deux, moi, sont tentants.
C'est plus spectaculaire de la part d'Herbert, hein, mais il y a aussi deux fois plus de sacs, je crois, pour Burrow. J'ai plus les stats en tête, 28 à 14.
Tu l'as dit, Burrow fait des choses avec beaucoup, beaucoup moins de matériel, même en termes de cible. Je veux dire, il y a Keenan Allen, il y a quand même des mecs qui se débrouillent. AJ Green est quand même plus AJ Green sur Cincinnati. Burrow arrive à créer une connexion avec des receveurs plus jeunes. C'est Higgins, si je dis pas de bêtises, notamment, qui sont
bien sûr.
Je l'avais mis pour Herbert sur mes fiches, mais tu vois, même en t'écoutant en parler, je serais tenté de donner Burrow, mais vraiment, attention, c'est dans un mouchoir, quoi.
Ouais, non, mais ça, c'est pareil. Burrow est arrivé avec une grosse cote. Herbert, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est quand même un quarterback qui a été nommé titulaire à un quart d'heure du match contre les Chiefs, il joue quand même le champion en titre dans un match où il est pas censé débuter, et pourtant il est comme un poisson dans l'eau. Donc franchement, là, c'est pour moi, c'est exactement comme Mahomes et Wilson. Franchement, que l'un ou l'autre l'est, je serais tout sauf étonné, quoi.
Écoute, je vais donner Herbert. Je vais donner Herbert.
Ça me va.
Rookie défensif. Et alors là, c'est marrant parce qu'on m'avait posé la question dans le fauteuil il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Et je m'étais trouvé un peu bête et je m'étais dit, j'ai du mal.
Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein.
Voilà, à trouver des rookies défensifs d'impact cette année.
Oui, c'est ce que je me suis dit également. Ouais. Je t'avoue que là, pour l'instant, c'est une classe qui a encore un petit peu de mal à faire ses preuves. Après, il y avait beaucoup d'attaquants, notamment dans les premiers choix. Hein, au premier tour, il me semble qu'il y avait à vue de nez, je dirais au moins trois quarts d'attaquants. Donc on s'attendait à ce que ce soit un petit peu la tendance, mais ouais, que les défenseurs pêchent à ce point-là, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Ouais.
Est-ce que du coup on se retrouve avec quoi alors? C'est quoi ton choix? Est-ce que tu as réussi à en trouver?
J'ai un peu pris le choix de la facilité. J'y suis allé sur Chase Young, defensive end de Washington. Ses stats sont pas dingues. Je crois qu'il a 3,5 sacs depuis le début de la saison, c'est sachant ça. Qu'il fait 1,5 sac sur son premier match contre Philly, si j'ai bonne mémoire. Donc ouais, c'est pas non plus fabuleux. Après, même si statistiquement, pour l'instant, il n'arrive pas à accumuler des sacs, il arrive à mettre une pression et à être un des acteurs majeurs de cette ligne défensive et de cette défense en règle générale de Washington qu'on met en avant depuis le début de la saison. Donc, il y a d'autres noms que j'aurais pu mettre en avant. Je pense qu'avec un peu plus de régularité, un Patrick Queen à Baltimore aurait pu être considéré. Mais je le trouve pas clinquant sur toutes les sorties cette année. C'est pas le cas de Young, hein, mais en tout cas il a l'air quand même beaucoup plus dissuasif dans son utilisation habituelle, et c'est ce qui m'a incité à le mettre rookie défensif dans cette classe, comme tu le disais, qui est pas non plus extraordinaire après huit ou neuf sorties cette saison.
Ouais, bah j'ai pris Young aussi par défaut entre guillemets, parce qu'en plus il a été gêné un peu par des blessures et tout ça, donc c'est celui qui a donné le plus de signes prometteurs sur ce qu'il a pu donner comme échantillon, donc Young aussi. On va attendre de voir si il y en a un. Là pour le coup, tout peut basculer dans la deuxième partie de saison, ouais, parce qu'il n'y a pas un immense favori. Hein.
C'est ça. J'ai pas parlé d'Antoine Winfield, hein, le safety de Tampa, qui est assez intéressant dans une grosse défense aussi. J'aurais pu. C'est vrai. Mais voilà, c'était pas. C'est bon. Là, j'attendrai encore un petit peu pour me faire une idée, mais oui, il fait un bon début de saison aussi. C'est vrai que c'est important de le mentionner.
Le comeback de l'année, cette année, il y a un peu plus de regards qui sont tournés là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment débat? Est-ce que on peut le donner à quelqu'un d'autre qu'Alex Smith?
C'est ça. Ça va être assez ironique de donner deux trophées à des joueurs de Washington vu la saison globale de la football team. Mais ouais, là, malheureusement, on peut difficilement sortir du symbole vu ce par quoi est passé Alex Smith pour revenir au plus haut niveau.
Bon, là, en on tout est cas, clairement. C'est ce que j'ai On est clairement sur un trophée de participation quasiment, parce que c'est pas comme s'il faisait basculer non plus. Parce que d'habitude, le comeback, c'est un peu un mec qui revient et qui en plus fait un peu de la stat. Bon, là, il a un touchdown, 3 interceptions en 2 matchs dans une équipe de fond de tableau. Donc bon.
C'est ça. Mais bon, après, c'est au-delà du symbole, tu vois, parce qu'il aurait très bien pu rentrer en fin de quart-temps. On va dire, ah, il a pris 3 snaps et là, on fait, comeback player de l'année. Il va quand même, malgré tout, tenter d'avoir un rôle dans cette équipe de Washington en fin de saison, même si, en effet, faut pas s'attendre à des miracles, même si l'essentiel est pas sa performance sportive en elle-même. Ça reste quand même, ça va quand même symboliser encore plus l'aspect compétiteur du joueur, parce qu'il va pas revenir juste pour du beurre et juste pour dire, vous avez vu, j'ai touché un ballon.
Il est titulaire. C'est vrai que ça, déjà, on s'y attendait pas. On peut mentionner, donc, évidemment, Teddy Bridgewater, quand même.
Bien sûr.
Il revient de, il n'était pas blessé ces dernières années, mais il récupère un poste de titulaire. Donc, comme les paramètres de ce trophée sont à géométrie variable, on peut rentrer plein de gens. Cam Newton, évidemment, qui revenait de blessure. Mais, alors, lui, pour le coup, avait un beau CV pour le trophée au début de l'année. Mais comme ça s'est un peu écrasé ces dernières semaines avec New England, clairement, il touche plus Alex Smith. Rob Gronkowski aussi, même si c'est pareil, clair. Et une mention, on en avait parlé dans l'émission de mardi, je sais que Raphaël avait souligné sa performance, on avait parlé de Miami d'ailleurs tout à l'heure. Emmanuel Ogba, c'est quand même 7 sacs. Alors, il n'a pas été blessé ou quoi que ce soit, mais ça n'a jamais été un joueur majeur. Alors, je me dis, les critères sont tellement variables.
Oui, bien sûr. Non, c'est, j'y ai réfléchi. C'est un des noms que j'avais en tête. Il y en a un que tu n'as pas cité quand même, voire deux, mais... Il y a peut-être Big Ben ou James Conner qu'on aurait pu mettre dans l'équation, peut-être plus Roethlisberger que Conner, parce que bon, malgré tout, c'est pas fabuleux ce que fait Roethlisberger depuis le début de la saison, mais en tout cas, il permet à cette équipe de Pittsburgh d'être beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'était l'année passée avec la même défense. Donc ça peut également être un nom qui sort du chapeau. Après, oui, comme tu dis, il y a tellement d'angles possibles. Tu vois, Aldon Smith peut très bien être comeback player de l'année, avec pourtant le niveau atroce qu'a Dallas cette année. Donc mais bon, ça me paraît assez cousu de fil blanc que ce sera a priori pour Alex Smith cette saison. Aller dans une autre direction, ça m'étonnerait beaucoup.
J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas eu déjà un trophée de comeback de l'année pour Ben Roethlisberger, parce que tu sais, il avait eu son accident de moto ou quoi, mais non, il n'a pas été comeback de
l'année.
Moi,
je m'avance plus sur l'histoire, hein. Je ne veux pas me fâcher avec d'autres supporters.
Mais alors, il y a quand même des gros noms hein, dans le comeback de l'année, j'étais en train de regarder. Il y a Tom Brady qui reçoit le trophée en 2008-2009, parce qu'il a son année derrière. Alors, je ne sais pas, c'est mal daté d'ailleurs sur Wikipédia, je ne sais pas pourquoi ils mettent Tom Brady 2009, puisque sa blessure, elle est en 2007, donc il rejoint en 2008.
Ah, si, non, elle est en 2008. Ils font Super Bowl l'année, la Almost Perfect Season, c'est 2007, ils se blessent en 2008.
D'accord, donc c'est la saison 2009. D'accord, c'est donc Michael Vick 2010, Peyton Manning en 2012. Ah bah oui, il revient de sa blessure à la nuque.
Ouais.
Philippe Rivers l'a eu en 2013, Gronkowski en 2014, donc il y a quand même des gros noms. Hein. Ensuite, Keenan Allen, Andrew Luck, Ryan Tannehill l'an dernier. Voilà.
De toute façon, dès que tu fais une année blanche et que tu reviens... Parce que pour le coup, Ryan Tannehill, tu parlais de géométrie variable, il n'était pas blessé, il me semble,
lui, pour
l'année d'avant. Il était juste relégué au second plan à Miami et il s'est relancé par la suite. Donc non, on peut mettre à peu près ce qu'on veut dans cette catégorie.
Tiens, d'ailleurs, les gens disent Drew Brees a jamais eu de titre de MVP, c'est injuste. Eh ben il a quand même été comeback player de l'année en 2004. Hein, ça c'est un trophée.
C'est ça.
Donc il a pas toujours été oublié pour les trophées. Je me rappelais même plus en 2004, c'est avec les Chargers qu'il est comeback player.
Oui, oui, oui. Il est passé son temps à se blesser avec les Chargers. Bizarrement à New Orleans, alors qu'il est plus vieux, il se blesse jamais. Hein.
C'est vrai, c'est dingue. Voilà pour les trophées de l'année. L'affiche, c'est parti. On a parlé de Russell Wilson qui s'échappe et on a parlé de Aaron Donald qui met des sacs. Ça tombe bien, Rams 5 victoires, 3 défaites, Seahawks 6 victoires, 2 défaites. On va avoir deux de nos candidats au trophée de fin d'année directement dans ce match. Alors l'air de rien, les Rams sont à une victoire de reprendre la tête de la division puisqu'ils n'ont pas encore affronté les Seahawks. Donc s'ils gagnent, ils reviennent au même bilan et ils ont une victoire en opposition directe. Ils ont quand même leur chance parce que Seattle est une équipe qui leur réussit très bien. Ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs et la seule victoire de Seattle sur les 5 derniers matchs, c'est un match gagné d'un tout petit point d'écart. Greg, tu me parlais dans la préparation de l'émission d'effet bête noire pour cette équipe de Seattle avec les Rams.
Bah, en tout cas, pour une équipe de Seattle qui est quand même très compétitive ces dernières années, c'est vrai que c'est rare d'avoir une équipe qui leur pose autant de difficultés. Je pense qu'il y a peut-être aussi Arizona, mais c'est uniquement du côté du Century Link Field ces dernières saisons. Par contre, c'est sûr que les Rams, ouais, même dans des années où on les attendait pas trop, la fin de l'ère Jeff Fisher, c'est toujours une équipe relativement chiante pour Seattle. Et encore plus, voilà, ça on le répète de par ce que t'expliquais, à savoir que la ligne offensive de Seattle reste la ligne offensive de Seattle, même s'il y a des signes encourageants cette année, et que bah face à eux, il y a quand même une équipe qui est un peu plus complète, un peu plus capable de générer de la pression, notamment par l'intermédiaire forcément d'Aaron Donald. Et donc c'est ça qui fait que à partir du moment où on arrive à freiner cette équipe des Seahawks offensivement, malheureusement pour eux, c'est pas la défense qui peut les sauver souvent cette année. Donc c'est forcément un match-up à identifier et qui peut éventuellement, enfin qui mérite en tout cas le détour dans cette 10e semaine.
Est-ce que tu penses que Jalen Ramsey peut ralentir un DK Metcalf?
Alors en tout cas, il va y avoir de la viande de chaque côté parce qu'on sait que Jalen Ramsey, forcément, sa défense de prédilection, c'est des défenses très très physiques. Contre la passe, les Rams depuis le début de la saison, c'est extrêmement correct. Hein. Il a globalement réussi à maîtriser les receveurs qu'il avait face à lui cette année. Après, DK Metcalf, il est quand même sur une très très bonne pente. Je ne sais pas s'il y a d'autres receveurs qui ont marqué plus de touchdowns que lui cette année. Alors, qu'il est le deuxième receveur statistiquement en termes de yards.
Il est deuxième sur les yards, gagné à la réception. D'ailleurs, il est 19e sur le nombre de réceptions. Donc, on voit vraiment le potentiel explosif. Je voulais vous donner la stat pour situer. C'est que Metcalf, c'est 18,3 yards par réception en moyenne. Mm-hmm. En comparaison, un Davante Adams, par exemple, c'est 12,7. Donc, on est à 5 yards de plus par réception.
Après, Seattle est très adepte du jeu profond. Hein.
Voilà. Mais bon, après, il s'adapte aussi aux qualités du bonhomme. Et puis, il peut casser du plaquage. Il peut même casser de l'humain, hein, accessoirement.
Oui.
il prend tout. Hein. Donc, il n'est pas à ça près. Mais c'est vrai que c'est un match-up intéressant parce que Ramsey est quand même un mec plutôt physique. Et puis, après, une des problématiques, tu l'as dit, c'est qu'il va falloir le temps que Metcalf aille au bout du terrain. Ou en tout cas en profondeur, et on ne sait pas trop s'il va l'avoir une fois que Donald va commencer à transpercer cette ligne, quoi.
Bah, c'est ça. Après, voilà, forcément, les Rams, de toute façon, vont avoir besoin de leurs deux stars défensifs, forcément, pour donner le là face à une telle attaque, hein, qui est capable de marquer des wagons de yards, des wagons de points, surtout. Et, ouais, non, franchement, DK Metcalf, ça va être un match-up très, très important à surveiller avec Jalen Ramsey. Même de l'autre côté, hein, Tyler Lockett, depuis le début de la saison, c'est assez solide. Je crois qu'il a moins de 700 yards depuis le début de l'année, en seulement 8 sorties. Et face à lui, il y aura un Darius Williams qui surprend de manière très positive du côté de Los Angeles. Donc vraiment, le secteur aérien, en tout cas quand Seattle aura le ballon, ça va être quelque chose à suivre. Ce sera sûrement de l'autre côté aussi, mais en tout cas du côté de Seattle, ça peut être très très excitant à voir ce duel entre receveur des Seahawks et backfield défensif en règle générale des Rams.
Et pour les stats, on rappelle que en effet, les Rams sont en progression cette année. On l'a dit dans la première partie de l'émission, ils sont deuxième sur les points encaissés, cinquième contre la course, deuxième contre la passe. Donc clairement, il y a eu des beaux progrès cette année pour Los Angeles. En attaque, on sait que les Seahawks, enfin en attaque pour les Rams, on sait que les Seahawks prennent l'eau dans les airs. Est-ce que Jared Goff peut le faire? Ils ont relancé Josh Allen la semaine dernière, les Seahawks. A priori, ils peuvent relancer Jared Goff parce que c'est toujours la sixième attaque NFL, mine de rien, quand même, les Rams.
Ben, c'est ça, et ils prennent pas beaucoup de sacs. Il y a toujours cette idée que j'évoquais en début de semaine, le fait que Carlos Dunlap va peut-être aussi commencer à s'intégrer un peu plus dans cette défense. Il y a un Jamal Adams qui revient également, qui était seulement de retour du côté de Buffalo, qui va avoir un rôle important, hein, avec notamment le backfield offensif des Rams, ce comité de coureurs. Où là, il va falloir vraiment être performant face à un tel run stop, et c'est là où en effet il va y avoir plus ou moins de pression sur Jared Goff. Il y a un groupe de receveurs qui est assez intéressant malgré tout, un Robert Woods qu'on utilise beaucoup sur des tracés de jump sweep, un Cooper Kupp qui, bien entendu, en termes de menaces profondes, on parlait de DK Metcalf, mais je pense que l'ancien distant Washington se place là. Voilà, après c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a une force de dissuasion suffisante du côté de Seattle? Est-ce que Quinton Dunbar sera au rendez-vous? Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Je le disais, est-ce qu'un Jamal Adams, pour le coup, parce que je l'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il sera pas plus intéressant en termes de couverture plutôt qu'à blinder un peu plus la boîte? C'est des points d'interrogation qui vont se poser, surtout quand on voit l'intégration importante des tight ends dans cette attaque des Rams. Un Tyler Higbee, notamment, qui est assez intéressant depuis le début de la saison. Un Gerald Everett qui revient de blessure et bon, qu'on voit par intermittence, mais qui peut également faire mal. Donc voilà, il y a quand même des points qui interrogent dans le jeu aérien du côté de Seattle. Et là aussi, on se dit que du côté des Rams, s'il y a la possibilité de les contrarier dans les airs, est-ce que du côté de Seattle, il y a autant de moyens de contrarier cette attaque qui est irrégulière, mais qui est capable de faire mal sur une rencontre? Rien n'est moins sûr.
Est-ce que c'est obligatoirement un match ultra offensif? Parce qu'on est en train de dire qu'en gros, les Seahawks ont du mal à stopper... auront éventuellement du mal à stopper cette attaque des Rams. En face, bon, il y a quand même Russell Wilson, donc on peut supposer qu'il va trouver des solutions. Ça ressemble à un match ultra offensif. Est-ce qu'il y a vraiment une clé qui peut changer ça? Un match-up en particulier?
Moi, en tout cas, il y a un match-up que j'attends de suivre tout particulièrement. Je ne sais pas si c'est ça qui va déterminer le nombre de points, mais on le disait, il y a un run-stop des Rams qui est meilleur, et il y a un groupe de running back, du côté de Seattle, qui a quand même été tributaire ces dernières semaines, notamment de l'absence de Chris Carson. Et ça s'est tristement ressenti du côté de Buffalo, parce que même s'il y avait des revenants sur les run-stoppers des Bills, Buffalo, depuis le début de la saison contre la course, c'était pas fameux. Donc voilà, cette absence a quand même rajouté cette fameuse pression sur les épaules de Russell Wilson, qu'on ne cesse de répéter. Mais voilà, en tout cas, ça peut permettre encore plus à Seattle d'être dangereux et de marquer un certain nombre de points. Je serais vraiment pas étonné, je pense qu'on est à un même scénario que celui du Arizona-Seattle. Alors je sais plus sur quel score c'était terminé, mais plus d'une trentaine de points de chaque côté de mémoire. Donc très franchement, je pense qu'on part quand même sur un match. Je serais étonné qu'on ait moins de 7 TD. Honnêtement, je pense qu'on peut partir sur au moins 7 touchdowns sur ce match-là. 37-34, le match d'Arizona Seattle. Je pense qu'on peut être à peu près dans cette même mouvance. Ouais.
Pronostic. Tu as donné le nombre de touchdowns, maintenant il me faut un vainqueur.
J'irai quand même avec les Rams. Je vais me faire des amis du côté de Seattle parce que j'étais le seul à mettre les Bills la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, ça rejoint ce que je dis depuis le début de la saison, c'est que cette équipe de Seattle, même s'ils ont une attaque supersonique, un super run stop, il y a encore quelque chose. Il manque selon moi, encore ce petit match référence, ce match signature. Ils peuvent l'obtenir du côté de Los Angeles. Mais voilà, je vois quand même la ligne un petit peu souffrir. Et en effet, cette défense encore contre la passe, ne pas être capable de stopper durablement l'hémorragie, ça ne jouera pas à grand-chose, hein, comme souvent sur les Rams Seahawks, mais j'y vais avec Los Angeles.
Et ben Los Angeles pour moi également, sur les forces et faiblesses qu'on a présentées. C'est le pari qui me semble le plus sûr. On passe au pronostic.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! We're gonna work on three! One, two, three, work!
Les pronostics de la semaine. Grégory, on va d'abord faire un petit point prono sur les scores. La semaine dernière, ça a donné 11 points pour Raphaël et pour moi-même, 10 pour toi et Raoul, 9 pour Camille. Au classement général, je te prends un petit point, 94 devant. Ah bah d'ailleurs, Raphaël passe devant toi, 91, Grégory 90, Camille 87 et Raoul 85. Donc Raoul qui pour l'instant se dirige vers le gage qu'on ne fait plus. Donc je pense qu'il
c'est ça. Mais en fait on a eu un classement hebdomadaire un peu symbolique du classement annuel pour l'instant.
C'est vrai. Mais bon voilà, donc Raoul doit frémir de peur de faire le gage qu'on ne fait plus. et qu'on n'a pas défini depuis 3 ans, je crois. Les pronostics, Greg, on commence par le match qu'aurait pu être une affiche de la semaine s'il n'avait pas été situé dans la nuit du jeudi au vendredi. Il est peut-être joué si vous nous écoutez vendredi matin. Titans, 6 victoires, 2 défaites. Colts, 5 victoires, 3 défaites. C'est la bataille pour la FC Sud. Force contre force avec l'attaque des Titans contre la défense des Colts, j'ai l'impression. T.Y. Hilton qui pourrait être de retour de l'autre côté pour l'attaque des Colts. Mais le force contre force, ça semble plutôt être attaque des Titans, défense des Colts.
Oui, très, très clairement. En tout cas, c'est les deux escouades respectives qui font la meilleure impression depuis le début de la saison. C'est la première confrontation entre ces deux équipes, oui. Hein, de formation qui se retrouvent relativement tard cette année et qui devraient, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, se disputer donc la première place d'AFC Sud. Et c'est un match très indécis, comme pour Seattle, en tout cas dans un degré moindre, hein, parce que voilà, les Seahawks en playoff ont leur chance très clairement. Tennessee, j'ai encore du mal à m'enthousiasmer depuis le début de l'année. C'est pas leur prestation à Cincinnati notamment qui m'a rassuré. Même le week-end dernier, on a vu qu'ils avaient vraiment pas grand-chose en phase 2 avec Chicago. Là, face à Indianapolis, je pense qu'il peut y avoir un peu plus de répondants et qu'en effet, ça peut plus se jouer en l'occurrence, malgré tout, sur l'attaque d'Indy contre la défense de Tennessee. Plus sur le côté, entre guillemets, hein, point faible contre point faible, ou en tout cas, point moins fort. Contre point moins fort, on voit que les Titans ont quand même du mal à générer de la pression depuis le début de la saison. C'est quand même pas de bol quand tu affrontes la O-line des Colts, avec en plus, tu disais, le retour d'un T.Y. Hilton. Alors, Desmond King a montré qu'il est capable d'être opportuniste avec son touchdown sur retour de fumble, mais on attend encore un petit peu plus de ce pass rush et de ce backfield défensif, notamment des cornerbacks de Tennessee, pour vraiment réussir à imposer leurs pattes sur cette AFC Sud, parce qu'en l'occurrence, il y a victoire, il y a 2 matchs d'avance sur Indianapolis, et ça commence quand même à se sentir bon avec un calendrier qui est pas non plus ultra démentiel en fin d'année. J'ai beaucoup hésité, je jouais la sécurité en partant sur les Titans. Mais je serais vraiment pas étonné qu'Indianapolis gagne ce match et qu'on se retrouve avec une égalité en tête de classement.
Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai très peu confiance dans cette défense des Titans pour l'instant. Il y aura déjà Devon Clowney qui doit revenir pour ce match d'ailleurs. Mais je vais jouer les Titans aussi sur la qualité des joueurs offensifs et sur l'impression de solidité qui arrive quand même à.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dégager Tannehill, Henry et AJ Brown depuis le début de l'année. Mais comme toi, je ne serais pas surpris que ça aille dans l'autre sens. Dimanche à 19h, Giants, 2 victoires, 7 défaites. Colts, pas Colts d'ailleurs, Giants, 2 victoires, 7 défaites. Eagles, 3 victoires, 4 défaites, 1 nul. Bataille pour la NFC Est. Est-ce qu'on aura plus ou moins de 40 points cumulés selon toi?
Moins. En tout cas, c'est ce qui paraît a priori le plus logique sur les derniers, sur les deux Giants Washington. Bon après, je dis oui, ça peut jouer à une quarantaine de points, mais bon, on n'ira pas à plus de 25 points de chaque côté. J'ai du mal à y croire en tout cas, surtout quand on voit le niveau des deux lines depuis le début de la saison. Donc ça me paraît un petit peu délicat. Les Eagles sortent de bye week. C'est ce qui m'a amené à aller plutôt de leur côté en l'occurrence sur ce match-là. On sait quand ils commencent à être de nouveau un petit peu refocalisés sur un objectif, ça peut être une bonne chose. Après, il me semble qu'ils avaient gagné à l'aller de peu. J'ai un doute là-dessus. Mais bon, je le dis, les Giants depuis le début de la saison, même quand ils perdent, ça se joue à rien. Hein. Donc, franchement, sur ce match-là, qui joue à domicile, en étant un peu regonflé à bloc après leur victoire du côté de Washington. Je serais tout sauf étonné, victoire des Eagles quand même.
Les Eagles ont gagné le match aller 22-21, c'était il y a seulement 3 semaines. Je vais donner les Eagles aussi. Après, ce qui va être pourrait y avoir plus de 40 points parce que ces équipes perdent le ballon à un rythme hallucinant, oui. Donc ça peut se perdre très facilement.
Et en bonne position.
Ouais. Voilà, devant les 10-20 yards adverses, etc. Donc, mais Eagles aussi, ça semble un peu plus solide en attaque, il y a un meilleur quarterback, même s'il perd beaucoup de ballons, il a été intercepté 12 fois, donc et Brett Favre réclame sa tête quasiment, donc je vais dire Eagles quand même. Packers 6 victoires 2 défaites, Jaguars 1 victoire 7 défaites après l'équipe CD Niners la semaine dernière. Les Packers devraient a priori vivre une nouvelle journée tranquille, même si Jack Luton sera encore là pour les Jaguars. Bon, je pense que là c'est un des pronostics les plus simples de la semaine, en tout cas sur le papier ça semble être les Packers.
Oui, après ils avaient été surpris à domicile contre Minnesota, mais j'ai pas dans l'idée que James Robinson soit au niveau de Dalvin Cook cette année. Donc oui, on va partir sur Green Bay cette saison. Il n'y a plus grand chose à espérer du côté des Jaguars en cette fin de cycle.
Packers pour moi aussi. Lions 3 victoires, 5 défaites. Washington 2 victoires, 6 défaites. C'est l'équipe qui a le moins de victoires, qui a le plus de chances dans sa division, hein, dans cette opposition. On rappelle que c'est plus Washington qui joue quelque chose. Moi, je vais le dire tout de suite, je joue les Lions pour la réaction, Matt Stafford, une sorte d'attaque qui, des fois, peut faire des trucs. Bon, après, attention, Washington est 5e défense de la Ligue sur les yards encaissés, c'est mine de rien.
Ouais. Il y a les retrouvailles entre Peterson et Washington, il me semble avoir vu également.
Oui.
Bon, sait-on jamais, hein. On a vu qu'il est un peu orgueilleux, le bonhomme, mais bon, il faudrait que l'attaque et la défense de Détroit, se réveillent un petit peu, surtout la défense. Ce serait bien qu'on joue à 11 de temps en temps, même si ça peut paraître assez facile, hein, vu le niveau de l'attaque offensive de Washington. J'y vais avec les Lions, ils sont quand même favoris, mais c'est vrai que ces dernières semaines, ils montrent pas grand chose non plus, en tout cas, moins que ce qu'ils pouvaient nous montrer en début d'année.
Non, clairement, ce ne sera pas l'opposition phare de cette série 19h. Donc, Lions pour tout le monde. Browns, 5 victoires, 3 défaites. Texans, 2 victoires, 6 défaites. Nick Chubb est de retour normalement pour Cleveland, donc ça devrait quand même changer beaucoup de choses. A priori, avec Nick Chubb au sol et Myles Garrett, qui est aussi à 9 sacs, hein, on a parlé d'Aaron Donald tout à l'heure quand on parlait des joueurs défensifs, qui devraient faire la chasse au Deshaun Watson. Bon, Cleveland a l'avantage sur le papier.
Oui, légèrement, ouais. Comme tu le disais, si en plus ils récupèrent leur meilleur running back contre une défense qui, au-delà du simple fait de starguer, d'avoir vu J.J. Watt réaliser son 100e sac en carrière, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de cette défense cette année, malheureusement, que ce soit contre la passe ou contre la course. Donc voilà, on a une attaque des Browns qui sans être hyper spectaculaire, est solide sur le pass pro et globalement inarrêtable sur le jeu à la course. J'ai du mal à ne pas voir les Browns s'imposer sur ce match-là.
Les Browns pour moi aussi. Panthers 3 victoires, 6 défaites. Buccaneers 6 victoires, 3 défaites. Ça sent la vengeance quand même pour les Buccaneers après la rouste qu'ils ont pris contre Tampa. Christian McCaffrey en plus ne devrait pas être là pour les Panthers. Bon, ils sont quand même supérieurs dans tous les secteurs. Moi, ce sera pas une surprise de dire que je prends les Buccaneers, mais j'attends de voir si tu crois tellement à Matt Rhule, Joe Brady et Teddy Bridgewater que tu peux pronostiquer l'upset de la semaine.
Franchement, j'aurais réfléchi si Tampa sortait pas d'une telle fessée qu'une nue. Je pense que Carolina peut leur donner un peu de fil à retordre, mais que à terme, ils vont quand même réussir à s'imposer, à se relancer dans cette NFC. Voilà, on voit qu'il y a un petit creux du côté de Carolina. Je pense que ça va repartir incessamment sous peu, mais là, c'est pas le bon adversaire pour se remettre dans les bonnes conditions.
Donc Tampa pour tout le monde. Dolphins 5 victoires 3 défaites, Chargers 2 victoires 6 défaites, c'est dimanche à 22h05. Celui-là, il me fait peur parce que c'est typiquement le genre de match que les Chargers peuvent aller chercher pour donner un peu d'espoir à leurs supporters avant de mieux les poignarder dans le dos au cutter comme ça pendant la semaine d'après.
En plus, c'est Tago contre Herbert quand même.
Alors, c'est ça. Il y a un beau match, Tagovailoa contre Herbert. Bon, après, il y a une opposition entre le probable coach de l'année et le probable pire coach de l'année. Donc,
c'est... Bah, encore là, tu veux dire, parce qu'il y en a, il y en a deux qu'on sautait déjà.
C'est vrai, oui, en, en poste. Bon, après, Adam Gaze est dans la course, mais bon, tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, un peu, ouais. Un peu. Non, je pense que t'as globalement tout dit. C'est sûr que c'est un match où il y a une équipe à qui tout sourit depuis plusieurs semaines, hein. Non pas que ce soit qu'une question de chance, mais en tout cas, tout le réussit. Et puis une autre où, bah, il y a toujours un truc qui fait que ça tourne pas dans le bon sens. Donc, mais voilà, les Chargers, ça reste une équipe, voilà, c'est, alors, je sais pas si je dirais les Giants du riche. Je vais pas exagérer non plus, mais
c'est dur. Il y a quand même plus de qualité.
En tout cas, c'est plus spectaculaire que les Giants. C'est ce que je veux dire. C'est les Giants restent dans les matchs, notamment grâce à la défense. Les Chargers restent dans les matchs grâce à leur attaque. Donc c'est aussi ce qui fait que depuis le début de la saison, ils sont pas non plus largués 9 fois sur 10. Et c'est ce qui fait que sur ce match-là, ils vont peut-être en kikiné, tu parlais d'une force contre force, la défense contre les défenses de Miami contre attaque des Chargers, on peut quand même avoir un match-up assez intéressant. Après, oui, d'un point de vue coaching, oui, ça incite quand même à se positionner plutôt du côté des Floridiens.
Je vais dire Dolphins aussi, mais je te dis, on va tous le regretter dimanche soir, lundi matin, quand on va voir qu'on va devoir mettre la case en rouge dans notre grille de pronostics et que les Chargers seront tapés ce truc-là. Mais bon,
c'est dommage, on fait plus les YOLO. Hein, on vous aurait dit les Chargers.
C'est vrai. Ah bah celui-là, ouais. Si vous devez jouer un YOLO là, à mon avis, mettez les Chargers parce que je sais pas pourquoi. Mais tu sais que j'étais presque à deux doigts de le pronostiquer, quoi. En mode, je sais pas. Celui-là, il me fait peur. Bon, Raiders 5 victoires, 3 défaites. Broncos 3 victoires, 5 défaites. C'est un duel de division, d'ailleurs, dans la AFC West. Y a beaucoup d'irrégularités et beaucoup d'erreurs face à Denver, de Denver, alors que les Raiders sont quand même plutôt sérieux et bien coachés depuis plusieurs semaines. Donc, ça semble quand même faire tourner ça à l'avantage de Las Vegas.
Ouais, j'y suis allé avec Las Vegas. Oui, c'est sûr qu'il y a un groupe qui reste encore très jeune du côté de Denver, à l'image de leur quarterback, hein, et où forcément, même quand on arrive à être dans un momentum relativement important, on n'arrive pas spécialement à capitaliser là-dessus. Donc ouais, je pense que à l'expérience, en tout cas d'un point de vue coaching, j'entends, les Raiders devraient l'emporter et continuer sur leur bonne série actuelle.
Oui, les Raiders pour moi aussi. Cardinals 5 victoires, 3 défaites, Bills 7 victoires, 2 défaites. Ça aurait pu être une affiche, ça va envoyer a priori offensivement, ça va être plutôt spectaculaire d'ailleurs avec deux quarterbacks plutôt fun à voir jouer. Quelle défense peut mieux le ralentir l'autre équipe? Parce que c'est surtout ça les inconnus dans ces équipes, c'est des équipes très offensives depuis le début de l'année. À qui la meilleure défense?
J'avoue, c'est difficile à dire, hein, parce que je parlais notamment du backfield défensif et des corners d'Arizona qui me rassuraient pas totalement. Bon, hormis Peterson, bien entendu, qui assure des standards, mais ouais, c'est vrai que à part ça, ils ont quand même pas mal de joueurs un petit peu qui traînent un peu la patte, et c'est sûr que face à cette escouade de Buffalo qui a récupéré, en plus on l'a dit, John Brown, ça donne quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions à Josh Allen. En face, je parlais du run stop de Buffalo qui a récupéré des joueurs, notamment au poste de linebacker. Il y a toujours un Kyler Murray qui est capable de faire mal. Donc c'est vrai que c'est dans deux secteurs un peu différents. Après, j'ai du mal à voir Arizona se prendre les pieds dans le tapis deux semaines de suite à domicile, même si l'adversaire, en l'occurrence, est de qualité. Buffalo a gagné sa victoire, on va dire, au caractère contre Seattle, face à une équipe contre laquelle ils n'étaient pas favoris. Je vois bien Arizona faire la même chose contre Buffalo et continuer d'espérer au playoff, parce que mine de rien, une défaite, ça pourrait rapidement semer le doute. Et un bilan de 5-4, sachant qu'il faut encore que tu aies joué notamment à Seattle, à Los Angeles, ça peut quand même faire un peu fâcheux. Ouais.
Eh ben écoute, moi je vais rester sur Buffalo parce que je vais essayer de croire au petit coup de mieux de Josh Allen la semaine dernière. Il y a quand même des éléments défensifs pour éventuellement embêter Kyler Murray, même si en effet ça a bien joué la semaine dernière. Je vais dire Buffalo, mais c'est pareil, c'est ce genre de match qui peut aller dans les deux sens. Dimanche 22h25, Saints 6 victoires de défaite, 49ers 4 victoires, 5 défaites. Bon, vu l'état des Niners, en termes de blessures, on va pas refaire toute la liste, ils sont décimés à peu près partout. Je pense que celui-là, c'est un pronostic assez simple vers les Saints.
Oui, il y a peu de choses quand même. Il y a un bon jeu au sol chez les Niners cette année avec ce qu'ils arrivent à avoir, mais le run stop en face est dissuasif. Donc, ouais, New Orleans, en l'occurrence, de mon côté.
Rams, 5 victoires, 3 défaites. Seahawks, 6 victoires, 2 défaites. On en a parlé dans la fiche de la semaine. On prend tous les deux les Rams. Steelers, 8 victoires, 0 défaites. Bengals, 2 victoires, 5 défaites, 1 nul. À surveiller la blessure de Ben Roethlisberger au moment où on se parle. C'est petite blessure au genou, mais aux deux genoux d'ailleurs. Mais ils espèrent qu'il soit opérationnel. Ils ont déjà failli lâcher un match contre une équipe faible la semaine dernière. Donc, a priori, là, ils devraient être concentrés. Ils ont la défense pour faire vivre un enfer à Joe Burrow. Si Ben Roethlisberger joue, a priori, ils sont ultra favoris.
Ouais, enfin, je vais être méchant, même avec Mason Rudolph, je pense que tu as quand même moyen de battre Cincinnati. Je parlais d'un potentiel excès de confiance du côté de Dallas. Je ne les vois pas se louper deux semaines de suite contre une équipe à leur portée. Là, en plus, c'est Cincinnati. On sait qu'il y a, même si les années passent, on sait qu'il y a quand même un petit historique qui dure, notamment de la période Marvin Lewis. Voilà, on sait que c'est rarement une équipe que les Steelers jouent à la légère à domicile face à une équipe qui est quand même assez faible, je trouve, sur la ligne offensive et sur le run stop. Bon, je pense que c'est quand même des armes sur lesquelles Pittsburgh peut exploiter. Et c'est des failles que Pittsburgh peut exploiter pour s'imposer, peut-être pas avec 20 points d'avance, mais en tout cas s'imposer de manière relativement confortable.
L'arrivée de Tack McKinley à Cincinnati, ça change pas la défense pour toi. Tu penses pas qu'il peut aller chercher ce match?
Oh, c'est pas bien de troller.
Pittsburgh pour tout le monde, si j'ai bien compris.
Juste si tu me permets, j'ai juste une petite parenthèse de 5 secondes, mais ouais, je redis ce que j'ai dit sur le chat interne du site, mais se débarrasser de Carlos Dunlap pour récupérer un joueur comme Tech McKinley, nouveau move hyper créatif de Zach Taylor, donc voilà, continuez comme ça, hein, y a pas de souci, donc je vois pas trop ce qu'il pourra leur apporter, mais pourquoi pas.
Bah, il est plus jeune.
Il est plus jeune, mais il a beaucoup moins de talent à mon sens, quoi.
C'est vrai aussi. Donc les Steelers pour tout le monde. Patriots, 3 victoires, 5 défaites. Ravens, 6 victoires, 2 défaites. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Est-ce que les Patriots peuvent jouer un mauvais tour défensif à Lamar Jackson? Parce que notamment, alors, une déclaration étonnante de Lamar Jackson que vous pouvez lire sur le site, qui disait la défense voit nos jeux, enfin connaît nos jeux, et je les entends de temps en temps sur la ligne de scrimmage dire là bon ça va être une course, là ça va être ceci, là ça va être cela. C'est pas tout à fait des déclarations qui sont rassurantes en NFL, sachant qu'en plus tu joues Bill Belichick qui déjà à la base connaît tes jeux hein, offensifs. Je veux dire, donc déjà lui trouve un moyen de les connaître. Donc si en plus là tu te dis que les autres équipes connaissent, ça veut dire que Bill Belichick il les connaît même avant qu'ils soient appelés. Voilà, c'est quand même embêtant. Alors je pense pas, pour revenir sur ce match évidemment, que les Ravens soient inférieurs aux Patriots actuellement, mais non. C'est juste pour parler globalement de Baltimore. Je trouve ça inquiétant d'entendre ce genre de déclaration-là d'un joueur qui est en troisième année, quoi.
Oui, oui. Enfin, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que, alors, en fait, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'ils appellent les jeux qui vont être faits ou est-ce qu'ils appellent éventuellement comme on peut le faire des fois sur les terrains français où on fait course, passe, tout ça. J'ai du mal à comprendre exactement parce que s'ils s'étonnent que les défenseurs puissent savoir que ça va courir du côté de Baltimore, là, les bras m'en tombent parce que on peut pas dire non plus. Il me semble que il y avait aussi les propos de Jesse Bates, le safety de Cincinnati, qui était relayé. Où il expliquait que de toute façon c'était ou Marquise Brown ou Mark Andrews. Enfin, voilà, c'est encore une fois c'est ce qu'on essaye de dire de manière sans être trop caricatural ou trop sévère avec Lamar Jackson parce que c'est un joueur qui en effet progresse malgré tout. Mais à un moment donné, progresse jusqu'à quand? C'est là aussi. Et voilà, avoir des grilles de lecture préférentielles ou un système offensif qui permet de faire briller, c'est une bonne chose. Sauf que là, il y a eu une intersaison avec des pertes importantes. Tu l'as rappelé, notamment, en plus, il y a le fait que Ronnie Stanley se soit blessé récemment et soit out jusqu'à la fin de saison. Voilà. Après, c'est pas non plus une découverte qu'il y ait des coordinateurs défensifs qui se soient dit, c'est peut-être pas très, très varié ce qu'on voit en face, quoi. Donc, c'est un peu étonnant comme déclaration, en effet. Surtout quand tu vas jouer New England et une défense plus que solide.
Après, en aparté, il parlait un peu dans sa barbe dans l'interview. J'ai eu un mal fou à traduire. Mais oui, non, il avait l'air de dire que un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que les mecs en face peuvent voir si ça va être passe ou course, quoi. Mais bon, comme tu as dit, c'est pas follement varié. Ils savent à peu près sur qui ça va jouer, même quand c'est une passe. Donc bon, ça c'est compliqué. Après, encore une fois, pour revenir sur ça, c'est peut-être un problème de fond en playoff. Ça risque d'être encore à nouveau problématique. Là, sur ce match, bon, les Ravens jouent les Patriots qui sont dans le dernier tiers de la ligue contre la course, donc ils devraient pouvoir courir. Mmh. Et leur défense, avec Marlon Humphrey qui revient puisqu'il est revenu, il est sorti de la liste Covid, ils vont jouer face à Cam Newton qui a quasiment pas de cible. Alors, Jacoby Meyers, ça fait un bon match, superbe. Mais bon, ils vont jouer Marlon Humphrey, Marcus Peters.
C'est 3 touchdowns, 11 interceptions, les Pats offensivement cette année, la passe. Il me semble
plus ça. Hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce qu'il marque beaucoup au sol, hein, de toute façon.
Mais oui, oui,
Newton ou les coureurs, ouais. Ça se finit souvent au sol.
Je le disais, pour moi, le run stop est un peu plus dissuasif encore du côté des Ravens que le jeu contre la passe. Donc, franchement, oui, c'est sûr que là, du côté de New England, où on va essentiellement, je pense, marteler au sol, ça peut poser problème. Ça peut poser problème à la longue. Tu vois, on se posait la question sur le Rams Seahawks. Je suis pas sûr qu'on ait 60 points sur ce match-là, par exemple.
Non, probablement pas. 2 touchdowns pour Cam Newton, 1 pour Jared Stidham à la passe, donc ça fait 3. Et 7 interceptions pour Newton, 1 pour Brian Hoyer, 3 pour Jared Stidham, qui font 11. Donc on est bien à 3-11 dans les airs pour les Patriots. En effet, on est un peu loin de la période Tom Brady.
Un peu.
En termes de ratio, donc ça donne Ravens pour tout le monde.
Oui, Baltimore pour moi aussi.
Et le match du lundi soir, c'est-à-dire dans la nuit du lundi à mardi à 2h15 du matin, Bears 5 victoires 4 défaites, Vikings 3 victoires 5 défaites. Sur la tendance du moment, où il n'est pas si facile que ça, celui-là à pronostiquer, c'est une rivalité de division. Les Bears ont quand même une excellente défense, donc on peut quand même se dire que s'ils arrivent à contenir Dalvin Cook, ils peuvent mettre en difficulté Kirk Cousins. Mais la question, c'est de savoir s'ils peuvent marquer assez de points derrière pour gagner.
Ouais, ouais. Alors après, le point d'interrogation, ouais, c'est parce que on sait que l'attaque de Minnesota en effet tournait un peu mieux, notamment bien entendu son running back, que la défense de Chicago depuis plusieurs semaines est beaucoup beaucoup mieux. Donc ça, c'est sûr que ça va être un force contre force. Après, ouais, ouais. Moi, j'ai un point d'interrogation, c'est de savoir que vaut concrètement cette défense de Minnesota. On a vu qu'ils ont laissé partir Yannick Ngakoue, qu'il y a forcément un pass rush. Qui joue de manière un peu moins expérimentée, un backfield défensif, là on n'en parle même pas, hein, même s'il y a un Jeff Gladney qui montre de meilleures choses sur ses dernières sorties, ça reste quand même, ça tient quand même à un fil, et je me dis quand même que Chicago a les moyens sur ce match-là de relancer la machine. Minnesota n'est pas non plus une force imprenable, hein, même s'ils ont réussi un coup de force du côté de Green Bay en sortie de bye week. Je verrais bien Chicago sur ce match-là réussir à s'imposer, mais tu le disais, hein, franchement, une victoire de Minnesota pour se rapprocher en plus des Bears serait pas non plus totalement utopique.
Moi, je veux dire les Vikings sur la tendance du moment, parce que les Bears arrivent vraiment à rien, mais comme tu dis, ça va être vraiment force contre force. Donc, si la défense des Bears arrive à forcer Cousins à lancer le ballon, ça peut vite être un autre match. Il y aura probablement pas beaucoup de points. Donc, si un touchdown défensif des Bears, par exemple, ça peut faire basculer, cette rencontre. Je vais dire Vikings encore une fois, mais sans être trop convaincu. C'est vraiment des matchs un peu pièges. Je précise qu'au repos cette semaine, nous avons les Jets, avec un J, et les Chiefs après avec un CH. Voilà, j'avais mélangé. Donc les Jets, les Chiefs, les Cowboys et les Falcons. On passe à vos questions. Vos questions cette semaine, celles du site. On commence avec Paul Cardon qui nous demande, en cas d'égalité au bilan de fin de saison, quels sont les critères qui permettent de départager deux ou plusieurs franchises? Du coup, si les Jaguars et les Jets terminent à 1-16, qui obtiendrait le premier choix? Alors, on départage plutôt dans l'autre sens. Hein, il y a des critères pour départager et faire en sorte le classement dans l'ordre, c'est-à-dire du plus fort au moins fort. Et ensuite, on prend la draft, on fait dans l'autre sens, on est d'accord? Je sais pas si j'étais clair.
c'était pas fluide au premier du premier coup, mais y a un point fondamental en tout cas qu'il faut voir au niveau des égalités. C'est pas toujours ce qui est pris en considération, mais c'est ce qu'ils appellent la force du calendrier, où on prend le niveau global, le niveau comptable des équipes qu'ils ont affrontées sur la campagne en cours, et du coup on établit éventuellement ce qui rend plus ou moins légitime le fait qu'ils ont eu cette fiche là. Si on prend l'exemple des Jets et des Jaguars, je dis ça totalement au hasard, hein. Si les Jets ont joué que des grosses équipes et finissent à 1-16, ce sera toujours plus mis en avant que si les Jaguars ont joué des équipes pourries et finissent à 1-16. Donc les Jaguars seront numéro 1 de la draft par rapport à ça.
Alors, je viens de vérifier sur, parce que je vérifiais, moi, je m'étais gouré. J'avais regardé pour préparer ça les procédures pour départager les équipes prétendantes aux playoffs, mais en effet, pour la draft, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui.
Pour
oui,
la
non,
draft,
pour les... vas-y, pardon.
Ben, pour la draft, c'est la force de calendrier en 1.
Ouais.
Ensuite, si des équipes de la même division, ce sont les critères pour départager les playoffs qui sont utilisés, c'est-à-dire bilan dans la division, bilan dans la conférence, etc. Enfin, donc c'est d'abord dans la même division. Ensuite, si elles sont dans la même conférence mais pas dans la même division, c'est les procédures pour départager les équipes selon les procédures pour départager les équipes en playoffs de la même conférence. Je vais y arriver. Et donc, si deux équipes qui ne sont pas dans la même conférence restent, il y a une série de choses pour les départager qui peuvent être le face-à-face si elles sont affrontées, le pourcentage de victoire sur les matchs communs, c'est-à-dire quand elles ont affronté les mêmes équipes, le pourcentage de victoire sur ces matchs-là, et ensuite la force des victoires, donc ça c'est les victoires, on prend le bilan des équipes qu'elles ont battues et on voit qui a battu les meilleures équipes. Voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est la force de calendrier qui est pris en 1 et en général, on a rarement, puisque c'est calculé au dixième ou au centième près, on a rarement la même.
Faut pas oublier qu'on a quand même des cas de figure, on se retrouve avec des tirages au sort pour déterminer. Alors, je parle plus de la draft en l'occurrence, bien entendu, pas les playoffs. On a toujours à la draft, par exemple, des cas où on se retrouve avec des tirages au sort, mais ça a surtout été pour des genres des qui aura le 11e ou le 12e spot, par exemple. Même dans ces cas de figure-là, même avec tous les scénarios possibles qu'on a mis dans les règlements, on peut malgré tout se retrouver avec des cas de figure où c'est des équipes qui sont pas dans la même conférence, qui n'ont pas forcément joué les mêmes équipes. Donc voilà, mais tu as tout bien résumé. Globalement, oui, il y a tout un tas de critères qui permettent quand même malgré tout de pas se retrouver le bec dans l'eau avec deux équipes qui ont les mêmes prétentions. Ouais.
Voilà, donc pour faire une réponse simple, en tout cas, c'est la force de calendrier qui est le premier critère de départage pour départager deux équipes à la draft. Ben LBA, la bière autrement qu'on salue, qui m'a envoyé plein de bières pour le fauteuil. Quand on compare la façon de gérer les trades entre la NBA et la NFL, on remarque que très peu d'équipes de foot US échangent des joueurs et privilégient les tours de draft. Pourquoi cette différence? Bon, ça, on en a quand même parlé souvent. On va redonner les basiques, mais c'est que un, c'est moins facile peut-être d'intégrer un joueur en cours de saison. On peut dire ça par rapport à une équipe de basket où faut absorber un playbook, faut absorber quand même pas mal de choses.
Oui, t'as sans doute raison. Moi, après, j'aurais plus été sur une logique de cap, notamment. C'est toujours. C'est toujours différent parce que quand quand t'as besoin d'une rotation pour aller jusqu'à une douzaine de joueurs, déjà récupérer un joueur, ça te permet quand même d'avoir déjà une rotation un peu plus établie. Alors que, bon, récupérer un joueur, alors après, ça dépend de quel joueur on parle, hein, mais tu auras quand même énormément de besoins à côté. Et voilà. Puis la draft en NBA me paraît pas non plus aussi importante qu'en NFL. Je pense qu'en NBA, c'est très. Il y a un tour exclusivement. C'est très rare les bons joueurs qui sortent du. Non, mais je veux dire, c'est très rare les bons joueurs qui sortent du deuxième tour.
Ah oui.
Les récents exemples, t'as des Draymond Green, je sais pas si Rajon Rondo était deuxième tour, mais c'est très très rare les bons joueurs qui sortent du deuxième tour. Tu te concentres essentiellement sur le premier, alors qu'en NFL, t'as quand même au moins 3-4 tours pour trouver des joueurs assez intéressants, donc ça peut éventuellement jouer dans la balance et ça permet encore une fois de gérer un cap de manière un peu plus soft, parce que bon, 53 joueurs, même avec des caps qui explosent ces dernières années, ça changera peut-être l'année prochaine en l'occurrence, mais c'est quand même une petite mission et c'est peut-être aussi pour ça que c'est privilégié.
Rondo fin premier tour de mémoire, mais tu as Elmanou Ginobili au deuxième tour.
Oui.
Par contre, une grosse différence qu'on mentionne peut-être pas assez, c'est que en NBA les contrats ils sont garantis. Donc quand la saison elle est lancée, des free agents il y en a plus. Alors qu'en NFL, là on l'a vu, tu peux récupérer un Tack McKinley en milieu de saison. Alors évidemment ça se passe pas toujours comme ça, mais il y a beaucoup plus de turnover sans avoir besoin d'échange en NFL. Donc tu peux signer des mecs dans le practice squad d'une autre équipe, tu peux attendre que ce soit coupé, il y a des coupes juste avant la saison, alors que la free agency était il y a 6 mois, mais t'as encore une grosse vague de coupes avant la saison. En NBA, les mecs qui sont bloqués, des fois ils ont des contrats de 5 ans, donc le seul moyen de t'en débarrasser c'est de faire des échanges. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que ça change beaucoup. Bertrand qui nous demande, j'ai entendu dans un podcast qu'un running back ne pouvait pas emmener une équipe au Super Bowl en voyant les prestations de Dalvin Cook ou Alvin Kamara, s'ils étaient dans une meilleure équipe, pensez-vous qu'ils le pourraient?
Fan des Saints s'apprécieront en tout cas.
Oui, c'est vrai que là, il peut pas être dans beaucoup mieux, Alvin Kamara.
Ouais, non, Alvin Cook, bon, ça peut s'entendre vu la situation, mais bon, Alvin Kamara, il est juste à 6-2, hein.
C'est vrai. Non, mais tu vois, moi, je pense que, si je peux me permettre, la réponse est plus ou moins dans la question. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire gagner un Super Bowl au sens où, justement, on le voit, Dalvin Cook, il faudrait qu'il soit dans une meilleure équipe. Mais qu'il ait un vrai quarterback, un vrai franchise quarterback.
Après, tout dépend ce qu'on entend par ça. On le dit souvent, hein, il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Une équipe comme San Francisco, ils vont au Super Bowl, pas forcément avec un super coureur, mais en tout cas avec un jeu au sol et une ligne offensive qui font qu'ils sont tout simplement inarrêtables. Pareil, quand Seattle, à l'époque, gagne le Super Bowl, certes, ils ont une énorme défense, mais ils ont aussi un énorme running back qui leur permet de tout casser sur son passage. Donc, je sais pas si c'est une vérité absolue, mais oui, forcément, il faut forcément un autre paramètre autour pour permettre à l'équipe d'être compétitive, mais c'est pas forcément le fait d'avoir uniquement un bon running back qui condamne l'équipe, à mon sens.
Mais moi, à la limite, la nuance, c'est que tu parlais des comités de coureurs, le jeu au sol peut te faire gagner le Super Bowl, mais pas un coureur en fait te fait gagner le Super Bowl.
Sans doute.
LOS75, la Ligue NFL se veut être un show, un spectacle avant tout. Elle essaie de faire des efforts de communication dans ce sens. Dès lors, comprenez-vous qu'elle nous diffuse pour Thanksgiving un Lions Texan et un Cowboys no-name team pour cette journée si spéciale au cœur des Américains? La tradition est-elle si ancrée qu'on ne peut pas s'en écarter pour assurer le spectacle et donc le financement? Et même si des accords ont été passés avec ces équipes, Dallas et Détroit, quel est l'intérêt pour celle-ci de se montrer en ridicule sur cette journée familiale? Oui, alors là, c'est sûr que les Cowboys et Lions à Thanksgiving tous les ans, c'est pas forcément de première qualité. En général, les Lions ouvrent le bal. Donc, on se les envoie à 18h tous les ans.
T'allais dire autre chose, non? T'allais utiliser un terme plus en rapport à la dinde, non?
Oui, j'ai dit, on s'est farci, oui. Après, oui, c'est la tradition pour le coup. Après, Dallas fait de l'audience, hein, quoique, même si ils sont pourris.
Oui, bon, c'est plus qu'on t'étape sur Détroit. Après, poser la question, est-ce que les traditions sont aussi sacrées aux États-Unis? Je rappelle qu'il y a toujours le port d'armes, qu'on ne touche pas à la constitution de la fin du XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de choses qui sont très ancrées aux États-Unis. Donc, je pense que la tradition de Thanksgiving où on voit jouer les Lions, ça va peut-être pas s'arrêter tout de suite non plus. Hein.
Mais tu sais que, comment dire, c'est ce qu'on m'avait dit la première fois que j'y suis allé, on m'avait dit, tu verras, c'est le pays où le plus moderne côtoie le plus archaïque. Et c'est pas tout à fait faux.
C'est même totalement vrai. De toute façon, on l'a vu lors des dernières élections. Hein, il y a beaucoup de choses très modernes et très archaïques dans ce pays, on le découvre pas. Hein.
Les mecs votent à la fois sur des machines automatiques et par courrier.
Donc encore une fois, peut-être que ça peut changer à la longue, mais voilà, sur l'aspect purement tradition, oui, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils sont très très attachés. Et je vais même dire, à la limite, on s'en fout presque du niveau des équipes aux États-Unis. Hein. C'est un passe-temps, un truc pour regarder pendant qu'on mange en famille. Hein. Donc à la limite, vaut mieux que. C'est pour ça qu'on met principalement l'affiche en prime time, à mon sens. Oui. Hein. Pendant la journée, on va pas s'amuser à mettre un énorme match, même si ce serait peut-être plus intéressant, mais voilà, c'est aussi pour accompagner les familles, peut-être, et que Détroit, Dallas, au final, même si ça fait de l'audience, Dallas, tu l'as bien dit, Détroit peut-être un petit peu moins, au final, oui, on s'en contente parfaitement. Hein.
Allez, question d'Arthur Lutte, quelle est la meilleure équipe spéciale de la Ligue selon vous? Merci mes petites cailles, il dit Arthur.
Alors là, j'avoue, j'ai pas.
Moi, je laisse répondre celui qui pense que Matthew Slater doit aller au Hall of Fame. Personnellement, j'ai pas d'avis. C'est tous les mêmes.
Oh non.
Je troll.
Comment tu peux dire ça? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Je sais pas. Franchement, j'ai pas creusé la question à ce point-là. Les équipes spéciales, j'ai juste balayé rapidement. Il me semblait que l'école, c'était pas pourri en équipe spéciale. Miami, c'est pas mal. Hein. Enfin, ils ont un bon kicker. Jakeem Grant sur retour de coup de pied, c'est solide aussi. Bon, allez, je te dirais Miami comme ça, mais encore une fois, j'ai pas non plus creusé le sujet de manière approfondie.
En bref, Fidel Gastro qui nous demande, au vu de la performance des Jets ce week-end, pensez-vous que Gase soit assez fou, suicidaire pour, il a dit un autre chose, mais c'est un gros mot et je veux pas le dire, pour nommer Joe Flacco titulaire et mettre Sam Darnold sur le banc? Je pense pas qu'on en soit là quand même.
Je ne présage plus de rien avec Adam Gase en l'occurrence, donc
on peut aussi dire ça.
Il peut nous expliquer que c'est la faute de Sam Darnold, hein, mais bon,
c'est vrai.
Ce sera difficilement audible.
On peut aussi voir ça comme ça. Baptiste, ce week-end, on a vu Tampa se faire claquer les fesses et les Steelers avoir plus de mal que prévu contre les Cowboys. Les Ravens inefficaces pendant trois quarts temps, les Seahawks encaissent une valise de points. Je n'arrive pas à savoir quel favori se démarque réellement des autres et semble avoir un vrai profil de champion. Merci la team et courage Raoul pour la fin de saison des Chargers. C'est ce qui a un vrai favori pour toi? Moi, les Chiefs, hein, de toute façon.
Oui, je te dirais plus les Chiefs, hein. Encore une fois, c'est pas plus mal, hein, qu'on ait au final des forces très très
C'est bien
équilibrées.
aussi.
Ça va donner des playoffs très excitantes. Après, oui, les Chiefs me paraissent quand même se sortir un petit peu du lot avec les problématiques que j'évoquais lors de la review de cette semaine. Mais oui, potentiellement. Ouais.
Et puis la dernière question, elle est signée de Manant. T'as mis chemin, il est l'heure de faire l'exercice du scénario fou pour cette fin de saison. Quel est le vôtre? Alors, ton Super Bowl fou.
Bon, Super Bowl fou, qui reste réaliste avec les équipes encore en lice, hein.
Par rapport à la situation actuelle.
Mon super, vas-y.
Moi, je te le dis de suite, hein. On a un Super Bowl Raiders Buccaneers avec John Gruden qui retrouve les Buccaneers.
Ah, c'est tentant. Je pensais aux Raiders parce que encore une fois, je l'ai dit, ils ont un calendrier qui peut être assez sympa. Après, à part celui-là, mais du coup, les Raiders, bon, NFC, à part Tampa, bon, après, si on veut faire un truc un peu fou, forcément, tu mets l'équipe d'NFC Est.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Un Eagles Dolphins au Super Bowl.
Ouais, pourquoi pas. Bon, là, c'est un peu. Faut avoir envie de le regarder quand même un minimum, mais bon, là, c'est vrai que. Ou un, je sais pas, un Eagles Bills. Un truc dans le genre,
Ouais,
je sais pas,
ouais.
je suis un peu partagé.
Moi, écoute, je reste sur ma hype avec un Raiders Buccaneers. En plus, comme ça, John Gruden se venge de Tom Brady indirectement. Tu vois, il est plus avec les Patriots, mais
Alors,
il se venge de la
venge,
tuck rule.
il se venge de la tuck rule. Il fait l'inverse de ce qu'il a fait 20 ans avant,
Mais
et
oui.
surtout, il bat Tampa à domicile. Alors là, je pense que
Oui. Ah,
là, je
celui-là, il me
pense que
plaît.
c'est la totale. Là, je pense qu'il peut reprendre sa retraite derrière.
Ah ouais, celui-là, il me plaît.
Il nous
Ah la
sortirait de
vache.
Maradona en conférence de presse. Là, je pense qu'on est pas mal.
Ah là là. Et puis t'imagines tous les gens qui vont faire des montages, tu sais, avec Derek Carr plus fort que Tom Brady et tout sur
Non,
Twitter le lendemain.
non, tu m'as
C'est la
convaincu.
folie.
Tu m'as hypé sur ce Raiders Burks. Pardon, c'est pas un lapsus exprès.
Sur ce, j'ai même pas entendu.
Sur ce Raiders Burks, j'ai dit. C'est les restes du Fun Falcons qui parlent.
D'accord.
Pardon. Mais oui,
Non
c'est
mais.
excitant. Ouais.
Parce que j'imagine les gens aiment bien faire des photos, tu sais, avec un mec qui tient un bébé dans ses bras et coller la tête de Tom Brady dessus quand il perd. J'attends les photos de Derek Carr avec Tom Brady dans les bras le lendemain du Super Bowl ou John Gruden. Ça pourrait être
Pourquoi
pas
pas,
mal.
ouais.
C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 377 du podcast Jeune Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On a désormais les porte-clés qui se sont rajoutés à la liste de goodies. Pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Jeune Actu en entier, à Thiello Radio ça pour Greg sur Twitter, à Talamaté pour moi-même et à TD Actu pour le site. Je l'ai déjà dit. Merci beaucoup, Grégory.
Toujours un plaisir.
Et on se retrouve, nous, dimanche pour le fauteuil de la 10e semaine. Ce sera à 18h sur notre chaîne YouTube. Et puis, vous avez l'habitude ensuite, mardi, pour le débrief. Très bonne fin de semaine. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliatelle au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on